RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr avec la Dream Team, Stephen Brun, Sacha Alix et Fred Weiss aujourd'hui. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut
Pierrot.
Bonjour.
C'est le printemps et donc c'est la course aux playoffs. C'est le meilleur moment de la saison de basket et particulièrement de NBA. Et aujourd'hui, on va faire très simple. Ça va passionner tous les fans de NBA. La course aux playoffs à l'Ouest, c'est l'objet de ce podcast basket. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux effrayés?
Parce que Stephen, en amont, t'as oublié de souligner quelque chose, Pierrot.
Ah, c'est mon anniversaire.
Exactement.
C'est ça que tu voulais dire.
Voilà.
C'est gentil, Stephen.
Bon anniversaire, Pierre.
C'est très gentil.
Bravo.
Tu sais que le 21 mars, puisque ce podcast est diffusé pour la première fois le 21 mars, c'est aussi l'anniversaire de Antoine Griezmann et de Ronaldinho.
Et d'Andrew Albici.
C'est un signe que des grands champions.
Que des grands champions.
On souhaite un joyeux anniversaire à Andrew Albici. Je croyais que tu me faisais les gros yeux parce que tu
non,
sentais que
déjà dit une bêtise,
on va envoyer les Dallas Mavericks hors playoff et même peut-être hors play-in.
Je vois pas qui peut faire ça ici.
Bah peut-être Sacha ou Fred.
Oui, parce qu'il a bien fait Rajan Rondo dans son 5 All-Time des Celtics.
Mais ça va me suivre, toute ma vie, c'est
déjà
sûr.
Alors,
joyeux anniversaire, Pierre.
Merci, c'est très gentil. Voici comment nous allons décliner ce podcast. Qui seront les gagnants et les perdants dans la course au playoff à l'Ouest? Vous allez me dire qui va se qualifier et qui seront les dindons de la farce. On va faire ensuite un focus sur les Lakers. Les Lakers en playoff, est-ce que ce serait mérité? Les Lakers sont actuellement 11e, même pas en play-in, hein, à l'heure où on se parle. Et puis dans la partie historique, vous avez carte blanche, messieurs, pour nous raconter une grande série de playoffs à l'Ouest. Une série qui vous plaît, une série qui vous tient à cœur, quelle qu'en soit la raison. C'est pas forcément le suspense, le spectacle, le niveau, c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de raconter. Aux milliers, que dis-je, aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers d'auditeurs de ce podcast Basket Time, on finira avec un quiz dont le thème sera les mégastars qui ont joué à l'Ouest et à l'Est.
Ah,
c'est parti.
Ça, ta petite recherche.
The real intrigue, as all of you know, is the Western race to the play-in. Because look at this. Two, number 6 through number 12. When you look at that, they're separated by just two games. The biggest question, though, is the play-in teams, the health of LeBron James. I don't love this, but we're going to do it anyway. I'm going to take the Mavs, and I'm going to take the Warriors, and I'm going to put them in the playoff play-in mix.
La course au play-off à l'Ouest, qui va se qualifier? Qui seront les grands perdants? Vous allez nous dire tout ça. Alors juste un petit point avant de démarrer, au 21 mars, au jour où on enregistre ce podcast, Denver a quasiment assuré sa première place, bataille Memphis-Sacramento pour la deuxième, et ensuite c'est la jungle entre la quatrième et la douzième place. Et en plus, Sacha, il reste des confrontations entre les prétendants aux places de play-off à l'Ouest.
Ouais, c'est exactement ça. Seulement 4 victoires séparent le quatrième du douzième à l'Ouest. Jamais une bataille n'a été aussi serré après 70 matchs en saison régulière en NBA, c'est assez incroyable. Et donc bah ouais, toutes les oppositions là, elles vont avoir lieu avec notamment bah pas mal, il y a un double affrontement entre les Clippers et les Thunder qui sont en contention. Il y a Dallas qui va affronter Warriors, deux équipes qui sont un peu en méforme. En vrai, il y a que des matchs de fou et bah ça va être très très dur de se distinguer dans cette course à l'Ouest. On l'a dit, c'était très ouvert même quand on a fait l'épisode sur la trade deadline. Et bah moi personnellement, j'ai du mal à distinguer un véritable favori qui se distingue. On est sur des grosses équipes, des collectifs. C'est plutôt les blessures, selon moi, qui vont faire la différence pour savoir qui va se caler dans le play-in et dans les play-offs. Et on peut se tourner vers les Warriors, par exemple. Bon, Memphis, a priori, ça va pas très très bien au niveau de l'effectif, mais ils vont quand même assurer, je pense, leur seconde place. C'est très 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 joué. On n'a jamais vu la Conférence Ouest comme ça. On n'a jamais vu aussi le top de la Conférence Ouest avec aussi peu de victoires. D'habitude, on tourne toujours autour de 60 victoires, quelque chose comme ça. Là, ça montre que c'est vraiment beaucoup plus homogène.
Il reste 10 matchs à jouer. Alors, certaines équipes ont 11 matchs à jouer. Ça va être important, hein, notamment le Thunder et le Jazz. D'autres n'en ont que 9. Mais grosso modo, on est à 10 matchs de la fin. Alors, est-ce qu'on peut évacuer la question du premier à l'Ouest? Est-ce que c'est réglé pour vous, 4 victoires d'avance pour Denver sur Memphis?
Oui, oui,
c'est réglé.
Et puis, c'est réglé.
Passe à la
déjà,
suite.
Ils sont même un peu en roue libre, d'ailleurs, les Nuggets sur cette fin de saison.
La deuxième place, Memphis ou Sacramento?
Moi, je vais aller sur les Grizzlies parce que je pense que Jamoran va rentrer. Il doit rentrer mercredi. Il a purgé ses 8 matchs de suspension. On pensait d'ailleurs, on avait fait un débat là-dessus. On pensait qu'il allait en prendre 50. Finalement, il n'en a pris que 8 parce qu'il a fait des efforts pour. Il a montré patte blanche pour.
Parce que la NBA était bien contente
de
lui
donner
que 8
bien
aussi.
Bien sûr. Donc, je pense que les Grizzlies.
Parce qu'il a fait un stage de réinsertion dans un.
Oui, 10 jours.
Dans un bar à striptease.
T'as régalé la photo.
Oui, mais maintenant, il sait gérer les bars à striptease.
La photo de Jamoran. Hein. Toi, c'est pas le pistolet qui t'a le plus régalé. C'est la meuf qui était sur lui, puis on...
Et les bifetons par terre. Non, mais
ouais, c'est des bifetons à dollars.
Oh. Oui, bah, y a...
Mais non, je pense que les Grizzlies vont finir deuxième. Et Sacramento 3, ce qui est déjà magnifique pour les Kings de terminer troisième avec Sabonis, qui est fantastique, qui a été élu joueur de la semaine aux côtés
on
de
On y croit aux Kings ou pas?
Moi, je pense que je vous dis sincèrement, l'équipe qui vont prendre les Kings au premier tour des playoffs.
Ils vont pas s'amuser.
Non, je pense qu'ils ont tiré le jackpot.
Très bien. Pareil, Fred et Sacha pour la deuxième place.
Pour moi, les trois premiers, c'est évidemment inamovible. Premier, Nuggets, évidemment aussi. J'hésite, moi, parce que les Kings sont quand même sur une bonne série, mais c'est vrai que le retour de Ja, ça va aussi.
Tu dois en choisir un des deux.
Si je devais en choisir un, ce serait le Grizz, grâce au retour de Ja, parce qu'il va devoir. Et avoir envie de montrer patte blanche. Donc logiquement, ils vont faire des gros matchs.
Sacha, pareil, on peut passer à la suite.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, je voyais même les Kings s'effondrer un petit peu au milieu de saison. C'est pas le cas, mais je pense qu'ils vont prendre cher en play-off. Ça va être compliqué.
Alors, maintenant, on va en venir à cette bataille de fous. Parce que Phoenix, qui est quatrième, peut même finir hors play-off, voire hors play-in. Alors, il faudrait un cataclysme, mais les Lakers, qui sont onzième, n'ont que 3 victoires de retard sur Phoenix. Dans cette jungle-là, à l'Est, vous allez me dire maintenant qui vous voyez tirer son épingle du jeu, qui est sur la meilleure dynamique et qui va se retrouver le bec dans l'eau, Fred.
Alors, pour moi, ceux qui sont sur la meilleure dynamique, c'est les Clippers. Déjà, ils ont enchaîné.
Le bec dans l'eau, ça peut être les Pelicans. Évidemment.
Oui, bravo.
donc je reviens à ce que je disais. Les Clippers, pour moi, c'est eux qui ont la meilleure équipe. Je pense que Stephen ne va pas me contredire par rapport à ça.
On les avait même présentés comme favoris.
Exactement.
Pour le titre,
hein, malgré une saison plutôt moyenne, ils vont finir quatrième, à mon sens, parce qu'ils ont la meilleure dynamique, parce qu'ils sont en train de trouver des automatismes, parce que Kawhi, tout simplement. Et à mon avis, je vois pas comment quelqu'un pourrait les empêcher de faire ça, surtout que les Suns baissent un petit peu, sont un peu moins bien. Ils attendent vraiment le retour de KD, mais sauf qu'il arrivera quasiment dans les derniers matchs, donc ça me paraît compliqué que les Suns leur partent devant. Pour moi, si on devait miser sur un quatrième potentiel, donc avoir l'avantage du terrain, ce serait les Clippers.
Les Clippers que tu mets dans le top 4, au détriment de Phoenix.
Exactement.
Bon, là, il n'y a qu'un demi-match d'écart entre les deux.
Après, moi, je rejoins Fred là-dessus. Les Clips sont sur une bonne dynamique. Ils ont gagné 5 matchs sur les 6 derniers. Ils ont 4 matchs de suite qui arrivent à domicile. Et en ce moment, la dynamique est bonne. Et puis surtout, Phoenix a un calendrier de porc, en fait. Ils jouent deux fois Sacramento. Ils jouent les Lakers deux fois. Ils reçoivent Philly. Ils jouent les Nuggets. Ils vont deux fois à OKC.
Ils sont pas super sereins, hein, parce qu'ils viennent de perdre en plus contre le Thunder.
Et,
là.
Et depuis la blessure de KD, ça a du mal. Alors Booker est un mutant de l'extrême, ça met régulièrement plus de 40 pions.
46 le dernier.
Mais je trouve qu'il y a un vrai problème. Alors après, quand le retour de KD, en fait, c'est annoncé fin mars. Fin mars, ça me paraît un peu tard et je pense que les Clips vont tac venir coiffer sur le poteau pour l'avantage du terrain. Mais les Clips font une petite saison, les Suns sont. Et globalement, Sacha l'a dit, la conférence Ouest, il y a beaucoup d'équipes qui font des saisons pourries, Pierrot. Et c'est pour ça aujourd'hui que Denver est largement en tête, que Sacramento a pu exister et va terminer deuxième ou troisième. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont déchirées cette saison de la Conférence Ouest.
Quand tu penses aux Nuggets qui ont quand même eu ce trou d'air là de quelques matchs ou affreux, qui normalement auraient dû leur coûter leur première place, ils sont quand même très sereins. Donc c'est vrai que c'est surprenant.
Et la non-saison des Warriors.
Alors les Warriors, vous pouvez en parler.
La non-saison des
Lakers. Quel est le niveau de ces Warriors?
C'est dur à dire. Hein. À l'extérieur, c'est catastrophique. Mmh. Déjà, d'une part, ils viennent de gagner. Ils n'avaient pas gagné depuis le 30 janvier à l'extérieur. Donc, c'est une statistique assez incroyable.
Surtout que dans la perspective de play-off, c'est pas très rassurant.
C'est pas très rassurant. Andrew Wiggins, on ne sait pas du tout ce qui va arriver. On ne sait pas ce qu'il a exactement. Mais en tout cas, il est protégé par tout le monde. Donc, apparemment, c'est très grave. Donc, c'est vraiment pas sûr qu'il puisse réintégrer son équipe. Moi, je les vois glisser.
Alors, t'imagines pas finir en.
Non, moi je pense qu'ils vont être obligés d'aller en play-in.
Ah ouais?
Ouais.
Et
ouais,
toi,
vraiment.
T'es pas d'accord avec ça, Steve?
Non, moi je les vois finir.
Moi je vois Dallas remonter à la place.
Je sais pas, les Mavs, c'est mon équipe. Hein, donc hier, ils étaient encore à plus 16 dans les cartons contre les Grizzlies.
Ouais, Lucas n'est pas là. Ouais, ça dépend. Sacha l'a dit.
Les blessures.
Ça dépend des blessures. Si Lucas peut revenir assez rapidement. Moi, je pense qu'ils peuvent monter. Sinon, effectivement, ils resteront à leur place.
Les Warriors, ils ont 5 matchs à domicile pour finir la saison. Et on sait qu'à domicile, ils sont injouables, heureusement, parce que sinon, ils ne seraient pas à cette place-là.
29-7 à la maison.
Cette saison des Warriors, elle est mauvaise. Parce que tu l'as dit, Wiggins a joué que 37 matchs et je pense qu'il ne reviendra pas. Curry a joué que 46 matchs. Clay a joué que 60 matchs. Écoute, il y a toujours ce fantasme de dire c'est quand même l'équipe championne au titre. Ils savent comment gagner des matchs dans le Money Time. Donc, je pense qu'ils vont s'en sortir. Moi, je pense qu'ils vont finir 6e.
C'est quoi le niveau des Warriors pour toi, Sacha?
C'est très, très. Tout va dépendre de Curry, selon moi. Et c'est lui qui va produire. Mais après, au niveau des roleplayers, c'est quand même appauvri. Ils sont quasiment tous blessés ou indisponibles. Moi, je les vois glisser. Et je me dis, quand je regarde la faiblesse, entre guillemets, du calendrier des Wolves, par exemple, et que je me dis qu'il y a quand même Doncic qui est absent du côté d'âge, je me dis, est-ce que ça ne peut pas profiter à Minnesota? Parce que je trouve que malgré l'absence de Towns, bon, qui va être longue, là il y a l'absence de courte durée d'Anthony Edwards, c'est pas dégueu ce que ça propose, c'est pas le meilleur basket, mais moi je suis assez étonné de les voir là-dedans. Je me dis, s'ils arrivent à sortir du play-in, les Wolves, ce sera vraiment une saison assez réussie, et le move pour eux, il sera justifié de cet été, ce sera une réussite, je pense.
Tu penses que c'est une réussite là, les Wolves?
Tu passes de pas de play-off à des play-offs et t'es pas dans le play-in, c'est un move réussi parce que tu progresses.
Ouais, mais je pense qu'ils ont fait all-in pas
oui,
pour ça. Hein.
Je pense qu'ils ont fait all-in pour autre chose plutôt que de se qualifier play-in ou.
Je pense que c'est pas suffisant. Je pense que c'est complètement raté pour.
Non, mais d'accord, mais on fait des moves qui sont à la hauteur des Minnesota Timberwolves, les gars. On s'attend jamais à transformer une franchise avec un move pour qu'elle soit au top et qu'elle soit championne tout de suite. Et en plus, la première année, je veux dire. Moi, si déjà ils sortent du play-in, je trouve que c'est une réussite parce qu'ils vont se mettre avec des équipes qui sont construites depuis un peu plus longtemps, exception des Kings. Et se frotter à ce niveau-là, je pense que c'est encourageant pour la suite. Après, il y a encore des ajustements à faire et je pense qu'ils ont fait des trades qui n'allaient pas toujours dans leur sens sur la trade deadline.
Alors, si on regarde entre les Clippers et Minnesota, il y a Golden State, mais il y a aussi Dallas. Est-ce que Dallas, avec Doncic en pleine possession de ses moyens, peut complètement troubler la hiérarchie? Parce que pour l'instant, ils sont 7e, il suffit de se qualifier en play-in et ça peut être un épouvantail absolu.
Pour moi, c'est vraiment dépendant absolument du cas d'Antide, de sa blessure, de savoir s'il peut revenir à 100%, parce que ben voilà, ils sont pas si loin et personne n'est loin, on l'a dit tout à l'heure. Mais
des Mavericks au complet peuvent faire un carnage, non?
C'est-à-dire qu'on a quand même ce duo magique qui peut embêter pas mal d'équipes, au moins pour gagner les matchs qu'il faut sur les 10 prochains, mais la réalité, c'est de savoir si Antide reviendra, parce que sans lui, par contre, c'est difficile de miser sur eux.
Après ce duo magique, moi, pour l'instant, il ne m'a pas fait beaucoup rêver. Ils ont joué peu de matchs ensemble et ça n'a pas été très concluant. Ils ont un bilan négatif quand les deux jouent ensemble. Ils vont gagner un match miraculeux aux Lakers sur un 3 points de Maxi Kleber et on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des Lakers. Merci Anthony Davis. Après, ils ont un calendrier où ils finissent par des équipes comme Chicago, comme San Antonio, comme Atlanta, comme Charlotte. Mais Tout est dépendant de sans Lucas, de Kyrie. Et Kyrie, hier, il s'éteint dans le quatrième quart-temps. Et je crois qu'il ne met pas le moindre panier dans le quatrième quart-temps contre les Grises. Donc, c'est mon équipe, mais j'ai du mal à être
pas
enthousiaste.
Pas si confiant que ça.
Hein, j'ai du mal à être enthousiaste.
Ok, pour OKC, Utah, vous avez envie d'en parler ou pas?
OKC, c'est l'équipe la plus chaude du moment à l'Ouest. Hein.
Je crois qu'ils sont à 7-3
sur les 7 victoires, 3 défaites. C'est la meilleure dynamique avec les Kings. Shai Gilgeous-Alexander est fantastique. Après, ils ont un calendrier compliqué.
Ils viennent de battre les Suns quand même. Ouais. Donc, quand même, c'était important parce que les Suns avaient des choses à montrer avec un Devin Booker à 46.
Il va falloir gagner à l'extérieur pour eux et c'est pas leur fort puisqu'ils ont gagné que 13 fois en 34 matchs, et ils vont deux fois aux Clippers, ils vont aux Lakers, ils vont à Portland, ils vont à Golden State. Donc c'est compliqué, mais c'est une équipe qui n'a pas de pression sur cette fin de saison. Okay, si on
eux, a... ils ont réussi leur saison.
Contrairement à tous les autres.
Ouais, eux qui ont été dans les bas-fonds pendant X années, commencent à se retrouver une équipe avec Gilgeous-Alexander, avec Josh Giddey qui est performant, avec la famille Williams. Là, ils en ont 14 dans l'équipe des Williams, donc c'est une bonne petite
super
équipe.
Super pratique à commenter. Ouais. Bah, c'est Williams qui passe à Williams.
Donc eux, ils n'ont pas de pression sur la fin de saison et ça va être un bon poil à gratter parce qu'ils affrontent des équipes de la conférence Ouest.
Bon, alors maintenant qu'on a fait à peu près le tableau, vous allez me dire, parce que ça marche aussi comme ça en sport et particulièrement en basket, s'il y a, selon vous, hein, une individualité qui va tout changer, parce qu'il y a finalement peu d'écart. En tout cas, il y a eu des bonnes périodes et des mauvaises périodes un peu pour tout le monde, si on excepte Denver qui est peut-être au-dessus. Est-ce que vous ne voyez pas, je ne sais pas moi, un Kawhi, un KD ou un Doncic faire la diff en play-off, une fois qu'on se projette sur les play-offs?
C'est très difficile à dire. Ça dépend dans quelle santé, ça dépend quelle position, ça dépend
Imaginant qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens.
Sur le papier, celui qui me fait le plus peur actuellement, enfin en tous les cas, c'est celui qui pour moi est un épouvantail, c'est Kawhi.
C'est Kawhi.
Kawhi, il est en train de revenir à une forme incroyable. On le revoit en mode robot, comme il sait faire. C'est-à-dire, il marque les
il
points.
Est il est au-dessus. Il domine.
Il défend
la ligne,
sur tout le monde. Il domine.
Il domine discrètement.
Discrètement. Bah, son, c'est pas image, un joueur quoi. Très exubérant.
Non, non, non. Il met des 30 proprement ouais, voilà, à la fin des matchs.
Personne n'en parle vraiment par rapport à des perfs, parce qu'on a l'habitude de voir des perfs à 50 maintenant, mais il est là.
Mais les Clippers ont peut-être. C'est pour moi l'équipe qui a le plus grosse marge de progression en playoff, qui peut jouer un basket bien plus supérieur à ce qu'ils n'ont
un
proposé.
Petit Phoenix, un petit Suns Clippers au premier tour, ça
franchement,
pas
moi,
mal.
Franchement, je sens très très bien venir celui-là.
KD, Kawhi, on a tous envie de voir ça.
Paul George, du Paul terrain George, Booker, encore déterminé.
Mais non, les Clippers, après on est obligé de parler KD. KD est l'élément qui peut permettre à Phoenix d'aller très loin, parce que c'est un des meilleurs attaquants de la planète. Il a joué 4 ou 5 matchs avec Phoenix, il est arrivé, t'as l'impression que ça faisait 10 ans qu'il était là.
C'est ça sa force, parce que n'importe quel autre joueur, tu dirais ah, ça va être compliqué, il faut qu'il s'adapte, etc. Sauf que quand KD arrive, tout le monde sait que c'est le boss et il va s'adapter de toute façon.
Et donc il y a une franchise dont on n'a pas encore parlé, 11e de la conférence Ouest, avec un bilan sur les 10 derniers matchs de 6 victoires et 4 défaites, ce sont les Lakers.
This season now, the Lakers are going to reevaluate him later in the week, perhaps as soon as Thursday, and we'll get an official update of where things stand. He's been out of the walking boot for about 2 weeks. Last week, he had his first on-court activity, just taking standstill free throws when the team was on the road in New Orleans. And the Lakers just got to keep winning games to give him a season to return to.
Right, and right now they're 6-5 in these games since LeBron James's injury.
Alors les Lakers sont en playoff, est-ce que ce serait mérité? C'est toujours mérité quand on obtient un résultat en sport évidemment, mais on pose cette question parce que les Lakers étaient partis sur une saison abominable. Et puis il y a eu une embellie qui leur laisse le droit de croire au moins au play-in, et finalement ils ne sont qu'à 2 victoires des Warriors qui sont 6e donc en playoff. Sauf que Sacha, ils ont réussi l'exploit de perdre contre Houston très récemment, et ça va compter dans le bilan hein.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a une dynamique qui est assez dingue pour les Lakers récemment. C'est le 11e meilleur bilan de la Ligue sur les 60 derniers matchs. C'est le 5e meilleur bilan depuis la trade deadline. Donc, on avait dit qu'ils avaient récupéré énormément de bons joueurs, de jeunes joueurs qui savent quoi faire, etc. Et c'est la meilleure défense de la Ligue avec LeBron qui est absent. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien par rapport à ça. En fait, ce que vous voulez
c'est
en
pas beau, ce que tu dis.
En termes de conclusion, non. Et franchement, je ne l'induis pas du tout. Mais je trouve que c'est une équipe qui a montré du caractère avec des joueurs comme Austin Reeves qui en ce moment pète tout, celui qui est un peu le sosie de Tom Holland, l'acteur qui joue Spider-Man avec sa tête de bambin, et c'est, on sent qu'il y a une rédemption dans cette équipe avec des joueurs comme D'Angelo Russell, etc. Ça ressemble à la dynamique qu'avaient les Nets justement quand ils étaient emmenés par D'Angelo Russell. C'est des joueurs qui sont un peu moins exposés que les autres, mais qui sont là pour jouer au basket. Moi, ce que je retiens, c'est que effectivement il y a des défaites qui sont bizarres, mais c'est qu'il y a encore de la marge, et s'ils arrivent à corriger justement ces défaites qui leur échappent, et celle contre Dallas c'était clairement évitable, je pense, Steve l'a dit tout à l'heure, ils peuvent faire très mal, et je pense qu'ils peuvent même sortir.
Surtout qu'elles venaient après celle des Rockets, hein. C'est ça ouais. Qui est encore pire.
C'est ça, donc on se dit que ça se joue à pas grand chose, et si tu rajoutes un LeBron qui, comme l'a montré son post Instagram, il est dans la salle de récupération du temps, on dirait c'est un Super Saiyan dans Dragon Ball, moi je peux m'attendre à des Lakers qui peuvent être très dangereux, je pense, en play-in play-off.
Et malgré le crack Anthony Davis, Steve.
Écoute, cette équipe, elle dépend de ce que veut faire Anthony Davis, en fait. Quel est ce joueur qui est capable d'être aussi dominant que Will Chamberlain à son époque, qui ne veut pas jouer un back-to-back dans une période cruciale où il ne joue pas le deuxième match de suite, ou capable d'enchaîner des erreurs monumentales contre les Mavs, faire faute sur un tir à 3 points de Kleber, venir donner une aide insensée pour que Kleber soit tout seul pour panier de la gagne, ou un mec qui contre Orlando se contente de 15 points, 11 rebonds. Je ne comprends pas ce que fait Anthony Davis dans cette équipe-là. Parce que Austin Reeves, très bien, bon soldat. Mais si tu comptes sur Austin Reeves pour t'emmener en play-off ou en play-in,
pour qu'il te fasse un autre 35-6-6,
tu vas pas t'en sortir. Sacha a raison de dire que cette équipe, elle joue mieux au basket, avec des Vanderbilt, avec des D'Angelo Russell, avec des Mike Beasley, qui sont des bons joueurs de basket. Mais là, on est dans une période où tu dois compter sur tes go-to guys. Et Anthony Davis ne peut plus se cacher. Les Lakers sont dépendants des performances d'Anthony Davis. LeBron James est blessé. Il n'y a aucune info sur son retour. C'était 3 semaines d'absence. Après, c'était on va le réévaluer dans 3 semaines. Il a un problème au pied. Aujourd'hui, les Lakers sont en grand danger. Et ce que j'ai envie de dire, ça va être sévère, mais j'ai envie qu'ils soient punis, en fait.
Les Lakers,
j'ai envie qu'ils
méritent d'être punis.
Exactement.
Pour leur saison.
Exactement. Ils méritent d'être punis pour leur saison. Ils méritent d'être punis pour avoir traité Russell Westbrook comme un paria et avoir mis tous les maux de cette équipe-là sur le dos d'un garçon qui aujourd'hui est aux Clippers. Ils méritent d'être punis parce qu'Anthony Davis, je ne comprends pas ce garçon, bipolaire. Un jour il est dominant, un jour il est inexistant. Et ils méritent d'être punis parce que LeBron, une fois qu'il a battu son record, est parti disparition en fait.
Mais alors quel serait le châtiment adapté ? Plutôt la fessée des culottes.
11e sur le dernier match de la journée. 11e, merci, au revoir, bonnes vacances.
Petit coup de martinet sur les fesses d'Anthony Davis. Voilà. Steve, tu lui mettrais ou pas ?
Je lui mettrais deux.
T'es risque et péril. Hein.
Et je crois que j'utiliserai l'autre partie du martinet pour Anthony Davis.
Fred, tu partages l'analyse sévère, mais juste de Steve.
C'est dur pour moi parce que je suis un
vrai
fan
procureur.
Je suis un fan des Lakers.
Procureur de l'État fédéral.
Et forcément, ça me fait mal ce qu'il dit et malheureusement, je peux que le rejoindre. Anthony Davis, je l'ai défendu tout le temps. C'est un joueur qui peut être ultra dominant, qui peut être fantastique. Sauf que quand on a besoin de lui, bah là, il répond pas présent en fait.
Pas toujours, du moins.
C'est-à-dire que pas suffisamment. Dans ces moments-là, si, comme il le dit, tu peux pas refuser un back-to-back.
Ça, c'est dingue. C'est lui qui décide de ça ou c'est sa franchise
Même si sa franchise te dit non, tu le fais pas. Bah, tu dis, attends, les gars, il faut que je joue. Enfin, à un moment, il doit prendre des
décisions. C'est sûr que se préserver.
Se préserver
pour la post-season quand tu t'es pas qualifié en play-off, ça sert pas à grand-chose.
Et même si c'est ta franchise, ils sont conscients que tout se joue là.
Mais même si c'est ta franchise, c'est Anthony Davis. Il peut dire à sa franchise, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux aller en play-off.
Mais tu vois que la franchise, ils ont les yeux en face des en fait,
quelqu'un est barjot dans ce cas de figure, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je suis assez d'accord aussi. Pourquoi avoir construit une équipe aussi mal pour finalement se battre pour la trade deadline d'avoir une équipe correcte? Il faut qu'il soit sanctionné.
Ouais, après,
faut pas que ça se reproduise.
Tu as le droit de corriger tes erreurs.
Oui, non, mais il a corrigé et corrigé. Ils ont changé combien de joueurs dans leur équipe?
T'as le droit d'affiner
un ou deux joueurs, mais t'as pas le droit de changer toute l'équipe.
Là, c'était nécessaire. Non, mais
ce que je veux dire, c'est que la construction. Bah si, tu peux leur reprocher d'avoir mal construit quasiment volontairement. Effectivement, d'avoir tout mis sur Russell Westbrook, qui a été quand même plutôt impeccable finalement.
Ça, c'était un peu la volonté de LeBron James, non ?
Oui, bien sûr.
Sacha, tu partages l'avis de Steve et Fred ?
Pas du tout. Non, mais moi je trouve ça dur de tomber sur les Lakers comme ça. De toute façon, c'est des situations qu'on a l'habitude de voir quand une équipe comporte LeBron James en serrant. Ça s'est passé à Cleveland, ça s'est passé à Miami. On sait que de toute façon, c'est les chaises musicales tout autour. C'est le Jazz qui sont devant les Lakers aujourd'hui au classement. Le Jazz aussi a trade toute sa famille là sur les derniers mois. Donc pourquoi eux ils se feraient pas sanctionner ? Je trouve que c'est facile de tomber sur les Lakers.
On n'est pas sur les mêmes ambitions.
Non, mais bien sûr qu'on n'est pas, ambitions. Et moi, je partage très clairement, par contre, votre ressenti autour d'Anthony Davis. C'est-à-dire qu'après le titre de la bulle, après l'annonce des NBA 75, où il est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire, bah, le mec, il se casse en deux. C'est terrible ce qui se passe. Enfin,
dans tous les sens du terme. Hein.
Non, mais vraiment, il est bipolaire. Donc, moi, en fait, j'ai envie de voir le côté optimiste. Et justement, j'ai envie de voir ce Anthony Davis conquérant qu'on avait vu faire la différence dans la série face à Denver, dans la bulle, et qui montre justement que c'était à lui de récupérer l'équipe derrière LeBron James. Je pense que là, il y a un boulevard pour prouver ça aux Lakers sur les derniers matchs qui restent. Ils n'ont pas le calendrier le plus difficile, à mon sens. Il y a quelque chose à faire. Si tu reviens avec LeBron, normalement, il y a une passation qui est censée se faire avec les deux. Et je pense que c'est le moment opportun pour Anthony Davis de le faire. Maintenant, est-ce qu'il aura envie de le faire ? Est-ce que les Lakers vont le pousser à faire ? Est-ce que LeBron va le pousser à le faire ? Je pense qu'il a aussi un rôle à jouer là-dedans. Moi, je suis curieux de le voir parce que je ne vais pas vous mentir. Je préfère un play-in ou des play-offs où les Lakers sont là plutôt que d'aller envoyer le Jazz en pâture. Ça va être compliqué. Je veux dire, le Jazz, c'est très honorable ce qu'ils font. Mais toute leur identité, elle a été trade, leur coach il a été trade. Maintenant voilà, c'est du bricolage, c'est hyper admirable ce qu'ils font.
Non, c'est une reconstruction.
Ouais, voilà, mais bah, moi j'ai envie de voir les Lakers qui sont censés être une grosse écurie.
T'as pas envie de voir Laurie Markkanen en play-in pour le féliciter de sa saison magnifique?
Si, mais je préfère quand même voir des Lakers qui peuvent peut-être.
Je suis d'accord avec toi que pour la médiatisation, pour le marketing, et je peux te dire qu'il y a une équipe qui prie pour que les Lakers soient 11e. C'est les Nuggets, mon grand. Parce que si t'es premier de la saison régulière à l'Ouest et qu'au premier tour, tu joues les Lakers qui récupèrent les LeBron avec Anthony Davis au premier tour, je peux te dire.
La question que je voulais vous poser, est-ce que
tu reviens de l'enfer, donc
est-ce que les Lakers en play-in peuvent faire du bazar ou c'est trop compliqué?
Le problème, c'est que s'ils finissent 10e, ils vont jouer deux matchs à l'extérieur. Donc il faut déjà gagner un match. Et là, c'est qui tout double. Tu joues un premier match à l'extérieur.
Dallas ou Golden State, c'est dur quand même.
Oui, c'est dur, mais il y a des signaux. Regarde, hier, ils peuvent être 10e. Ils comptent sur les Kings en disant Sacramento, ils vont peut-être taper Utah. Finalement, c'est Utah. qui tape Sacramento, ils se retrouvent 11e. Après, ils ont les cartes en main parce qu'ils jouent OKC, ils jouent Utah deux fois, ils jouent les Suns deux fois, ils jouent Minnesota. Donc, ils ont un calendrier pour leur permettre de dire on les tape et on est dedans.
Quoi qu'il arrive, ils auront mérité.
Principalement deux. Et dans ce cas-là, oui, ils seraient méritants.
Sacha, un dernier mot.
Je voulais juste rajouter quelque chose. C'est vrai qu'on parlait du mérite et récompenser, etc. Moi, je trouve qu'on n'a jamais eu une saison où vraiment les 12 équipes limite. Enfin, moi, j'ai apprécié ce qu'elles ont produit dans la conférence Ouest et où tu as envie un petit peu de récompenser tout le monde. Parce que quand je regarde les Pelicans, tu vois, bah franchement, ils m'ont fait kiffer cette saison. Je pense que c'était une surprise pour moi qu'ils aient été hauts assez souvent.
Une équipe, hein, quand même.
Oui, oui, mais elle est bien construite. Je veux dire, tu vois, l'apport de CJ McCollum, etc. Enfin, tous, moi, je trouve ça trop bien. Alvarado qui se réveille.
Donc, tu peux être déçu de ce qu'ils font.
Bah, ouais, mais en même temps, t'es pas déçu parce qu'ils ont Zion dans l'équipe. Oui, et Zion n'étant pas là, ça change tout.
Bah, Danny Graham qui a loupé
c'est ça, tu vois. Mais
et on a toujours pas compris exactement ce qu'il avait au pied d'ailleurs. Mais
c'est un peu toujours le problème des Pelicans, c'est que chaque année tu te dis allez, c'est leur année, et en fait, bah non.
Mais ils sont encore loin d'être éliminés, bien sûr, pour la course au play-in.
Par contre, une équipe qui loin sans être loin mais qui va balancer, c'est Portland, puisque je crois que Damien Lillard
il a dit qu'il ne jouerait pas les 5 derniers matchs,
ouais, si jamais là il perd
sont quand même un peu plus loin, hein. Les Pelicans sont quand même une victoire
Lillard
de Utah,
Damien Lillard sera en vacances avant tout le monde.
C'est un Basket Time spécial Playoff à l'Ouest que vous avez téléchargé sur rmc.fr comme chaque mardi. La partie historique, c'est maintenant. 10 seconds, Kobe Bryant against Christie. Kobe Bryant on the move against Christie. In for the right, flips his shot up, no good. O'Neal lays it up, missed it. Ball tipped out to Aurea, straight on three. Good! The Lakers have won! The Rockets, they're locked and loaded. But the Warriors, they have firepower as well. Yeah, but maybe the Warriors are vulnerable. Who knows? This is the first time in the Kerr era that they're opening on the road. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! What a shot from Curry with 6/10 of a second remaining. Vous avez carte blanche pour nous raconter une grande série de playoffs à l'Ouest, quelle que soit l'époque, quelle que soit votre sensibilité, quel que soit le scénario, pas forcément la plus belle, celle qui vous plaît, celle que vous avez envie de faire partager à tous les amoureux de basket. Et on va pas remonter très loin, à part bien sûr avec Big Fred qui va nous parler des Lakers des années 2000. Fred, tu as choisi la série entre Sacramento et les Lakers de 2001-2002.
Ouais. Exactement. Alors, je vais parler un petit peu des Kings. Donc, il y a Mike Bibby qui arrive pour remplacer White Chocolate Williams. Donc, déjà, ça fait un peu un choc, hein, dans la franchise. Il draft Gerald Wallace, juste pour un peu.
J.J. Wallace.
Exactement.
Grand joueur un peu oublié, c'est vrai, non?
Bon joueur solide.
Bon joueur solide.
Que Michael Jordan a tradé lorsqu'il était.
Parce que Michael Jordan a fait souvent des bons choix, t'as remarqué, au podcast.
Donc, l'effectif, c'est Doug Christie, Vladi Divac, Bobby Jackson. Et bien sûr, Chris Weber, mais j'ai oublié quelqu'un. Peja Stojakovic. Il faut jamais l'oublier. Alors, dans l'équipe, il y a aussi Laurence Vanderburgh, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui a joué à Portes, joueur incroyable, et Turkoglu. Donc, c'est le meilleur bilan de cette saison. 61 victoires, 21 défaites. Donc, premier tour, il tombe contre Utah de Stockton Malone et Kirilenko, le jeune Kirilenko, 3-1. Deuxième tour, 4-1 contre Dallas. Nash Nowitzki, évidemment, et finalement, c'est l'heure d'affronter les Lakers qui, eux, se sont imposés 3-0 contre Portland et 4-1 contre San Antonio.
Et donc c'est match, finale à l'Ouest.
Finale de conf.
Finale
exactement.
De conf.
Match 1, 30 points, 26 points pour le Shaq. Match assez facile pour les Lakers, donc on va pas trop en parler. Match 2, victoire des Kings, parce qu'ils sont un peu obligés de gagner. Parce que, imagine, tu perds deux matchs à la maison, c'est compliqué. Donc, Weber et Bibby font un gros match, 96-90, malgré un Shaq à 35-13. Match 3, victoire des Kings. C'est un exploit. Ils battent les Lakers 103-90.
À l'extérieur.
Avec Weber et Bibby et un grand Doug Christie. Match 4, c'est là que ça devient intéressant. Match 4, panier au buzzer à la mi-temps de Samaki Walker. Déjà, je ne me rappelle même plus de ce joueur. Qui met un panier qui n'aurait pas dû être accordé. Donc déjà, c'est un peu chaud.
Et mais pourquoi
c'est
pas... Pourquoi n'aurait-il ben pu temps, pas être accordé
le temps, le temps buzzer. Était, le buzzer avait retenti.
À l'époque, il n'y avait pas la barre, Pierrot.
Et malgré ça, le panier est accordé. Et finalement, on se retrouve à quasiment égalité des points d'avance pour les Lakers. Deux points de retard, pardon, pour les Lakers, qui se retrouvent avec Kobe qui pénètre, qui rate le shoot, le Shaq qui prend le rebond, ça rate. Et finalement, Vladi Divac, il tape un peu le ballon n'importe comment, et il tombe dans les mains de Robert Horry, qui met un shoot à 3 points assassin qui permettra aux Lakers d'égaliser. Deux partout. Shoot au buzzer de Robert Horry qui a fait
à
un peu sa légende. Shoot
mais
complètement
il shootait à 3 points, Robert Horry.
Il shootait à 3 points. Ouais. Oui. Mais là, il se retrouve.
Je vous pose la question parce que
j'ai le vieux Robert.
J'ai pas la culture de NBA à ce point-là.
C'était pas vraiment prévu. Hein. Vladivostok, je te dis, il tape le ballon pour essayer de gagner du temps et ça tombe dans les mains de Robert Horry. C'était pas le meilleur choix possible. Pas match 5, match rugueux, match défensif. Avec, ça joue en une possession, et là c'est Mike Bibby, à 8 secondes de la fin, qui va marquer, et finalement ça, ils vont s'imposer 92-91, les Kings, d'accord ? Donc match 6, début du quatrième carton, égalité, 75 partout. LA va se retrouver à shooter 27 lancers francs, pour seulement 9 contre les Kings. Le score final, 106-102, des erreurs d'arbitrage, des fautes non sifflées, le match du scandale, tout le monde
match
sera...
Du scandale.
En honteux de ce match.
Encore un arbitre qui a foutu le bazar dans un match.
Comme d'hab.
Les arbitres sont bien sûr critiqués.
Auto-arbitrage.
franchement, une image désastreuse de ce sixième match. Et finalement, ça ira au match 7 où les Kings vont perdre après prolongation 112-106, se rappelant toujours de ce sixième match qui sera considéré comme le match de la honte.
Fucking disgrace, comme on dit en foot.
Exactement. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai retenu parce que. Des scénarios incroyables, un Robert Horry qui nous met un shoot magnifique, Mike Bibby, et puis finalement ce quatrième carton qui reste dans les mémoires parce que il a été scandaleux.
Et auto-arbitrage et on joue la dernière possession à la bagarre.
Mais voilà, exactement. Sachant que pendant ce sixième match, Mike Bibby prend un coup de coude dans la tête par Kobe Bryant.
J'en profite.
Et pas de faute.
Pour faire une mini parenthèse sur ce joueur Mike Bibby dont on a quasiment jamais parlé parce que c'est pas le meilleur meneur de l'histoire, mais quand même un joueur très solide. Très correct.
Tu l'as vu maintenant ?
Non.
T'as pas vu
c'est un bodybuilder. Oui,
physiquement, il est incroyable.
Il fait du 3 contre 3, mais il prend tout le terrain. C'est un pivot.
Il arrête pas de dire fuck. C'est Bibby fuck.
C'est vous le mettez dans quelle catégorie de joueur, Mike Bibby ?
On va pas trop en faire non joueur. Plus. Solide meneur de jeu, très bon meneur de jeu. Et ben bon, il est quand même loin de tous les très bons.
Mais il a été très bon pendant cette finale de conf.
C'est quoi, c'est All-Star des années 2000, c'est ça, c'est là où il faut le placer.
Stephen, t'as choisi une série de 2018.
Ouais, finale de conférence entre le premier de la saison régulière, les Rockets de Houston, 65 victoires emmenées par James Harden et Chris Paul et coachées par Mike D'Antoni. En face, peut-être la meilleure équipe du monde individuellement, les Warriors, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, André Iguodala et Kevin Durant. Cette équipe a remporté 58 matchs en saison régulière et sont champions en titre. C'est les deux meilleures attaques de la Ligue qui s'affrontent, Pierrot. Et les Rockets de Houston vont pousser les Warriors au bord du précipice.
C'est finale de conf ?
Finale de conf, ouais, à l'ouest. Match 1 à Houston. Les Warriors récupèrent tout de suite l'avantage du terrain, malgré les 41 points de James Harden, Durant 37 pions, Thompson 28 et un petit Curry à 18 points. Mais les Warriors sont trop forts. Match 2 à Houston, les Rockets s'égalisent. James Harden trouve du soutien avec PJ Tucker, 22 points. Trevor Ariza, 19 points. En face, Kevin Durant égale à lui-même 38 points, mais Klay Thompson est porté disparu avec 8 points seulement. Match 3 à Golden State, énorme rouse pour les Warriors. Ils sont injouables, 126-85. Curry réalise son premier gros match des finales avec 35 points et Draymond Green rajoute 17 rebonds. Et là, la série commence à tourner. Match 4 à Golden State, grosse surprise puisque Houston reprend l'avantage du terrain avec un score aux antipodes des 3 premiers matchs. Victoire 95-92, 57 points du duo James Harden-Chris Paul. Match 5, Pierrot. Retour au Texas, les Rockets gagnent 98-94 et s'octroient donc deux balles de finale NBA. Harden et Paul déchirent.
Et les deux à Golden State, non. Du coup, non ? Une à Houston, une à Golden State.
Une à Golden State et une à Houston, puisque Houston a le meilleur bilan de la Ligue. Sur ce match 5, Harden et Paul déchirent complet, 11 sur 40 au tir, mais le facteur X se nomme Eric Gordon. Eric Gordon, 24 points en sortie de banc. Sauf que là, gros problème, dans les dernières minutes, Chris Paul se blesse et sera annoncé absent pour la fin de la série, laissant le seul soin à Harden d'amener cette équipe en finale NBA. Première balle de match à Golden State, fin du premier quart-temps, les Rockets sont à plus 17, 39-22. Plus 10 à la mi-temps pour Houston. On se met à rêver d'une finale NBA. Et là, explosion au vol en deuxième mi-temps. Le duo Curry-Thompson est en feu. 14-28 à 3 points pour les deux loustiques. Première balle de match loupée pour James Harden. Mais la deuxième, elle est dans le Texas. Et là, c'est un match 7, Pierrot. Finale de conférence, match 7. Houston fait une première mi-temps très correcte. Mais les Warriors sont honteux. Houston est à plus 11 à la mi-temps. Et là, Pierrot, nous allons assister à un moment d'histoire en deuxième mi-temps. Le plus gros fiasco d'adresse de l'histoire de la NBA. Les Rockets vont louper 27 tirs à 3 points consécutivement pour perdre de 20 points la deuxième mi-temps. Harden et Gordon, 4 sur 25 à 3 points. Curry termine le match à 27 points du rebond, 9 passes. Durant un match normal pour lui, 34 points, 5 rebonds, 5 passes. Houston vient de laisser passer sa seule et unique chance dans l'ère d'Anthony et Daryl Morey avec la philosophie du tir à 3 points outrance et la James Harden dépendance. Les Warriors, eux, vont ensuite sweeper les Cavs pour permettre à Kevin Durant d'enfiler une deuxième bagouze au doigt.
C'est terrible.
27 tirs à 3 points de suite loupés. Tu te rends compte ce que c'est ?
Est-ce que Harden peut rééditer ce genre de performance avec Philadelphie ?
Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à qualifier le James Harden de choker en play-off.
Et il a une revanche à prendre
là-dessus.
Mais what
if, si Houston était passé avec cette mentalité de shoot à 3 points uniquement, etc.
Sachant qu'en face, c'était des très faibles Cleveland Cavaliers. Même s'il y avait LeBron, c'était très faible. Les Cavs.
On va reparler des Warriors, mais ceux de 2016 avec Sacha contre le Thunder.
Ça a mis fin à l'ère du Thunder, tout ça.
C'est exactement ça. C'est la genèse un petit peu de ces Golden State Warriors qu'on peut pas aller chercher. Et l'histoire est quand même assez folle, parce que si tu prends tout ce qui se passe sur ces playoffs-là, cette série-là, c'est en fait c'est l'apéritif à avoir quelque chose d'encore plus grand qui se déroule.
C'est un petit apéricule.
Vraiment, c'est assez intéressant.
Jambon ou basilic?
Les deux sont dégueulasses, Pierrot.
Ah, j'aime bien le jambon.
T'aimes bien, toi?
Ouais.
Tu réponds aux petites questions et aux petites devinettes sur le papier. Ouais.
Moi, c'est saumon, mon préféré, ça a toujours été ça. Numéro 3 de la conférence Ouest avec 55 victoires en saison régulière. Oklahoma City Thunder, à l'époque, pour vous remettre dans le contexte, c'est Russell Westbrook, c'est Kevin Durant, c'est Serge Ibaka. Enfin, c'est la meilleure équipe qu'on ait jamais vue avec Steven Adams et compagnie. Et c'est clairement ceux qu'on attend pour passer un cap ou pour peut-être tenir tête à des Warriors qui ont tout simplement signé le meilleur bilan en saison régulière de l'histoire de l'NBA. Ils ont effacé les Bulls en faisant ce bilan de 73 victoires pour 9 défaites. Et ben, assez étonnamment, la série, elle commence avec une victoire d'OKC à l'extérieur, donc à Golden State, un match assez accroché. C'est Russell Westbrook qui va finir meilleur marqueur, qui va montrer l'exemple en étant assez dominant. Derrière, on va avoir une victoire des Warriors à domicile. Oui, quand même, il faut un petit peu montrer ce qui se passe. C'est quand même Kevin Durant qui va se distinguer et Steven Adams qui vont faire les meilleures performances individuelles. Et puis là, coup sur coup, t'as deux victoires à domicile d'OKC qui vont pousser Golden State dans leur dernier retranchement. 3-1, les Warriors sont au bord de l'élimination.
Oui, c'est là où ils sont forts quand même.
Durant, c'est pas deux balles de match, c'est trois balles de match.
C'est ça, Durant et Westbrook qui sont toujours aussi incisifs. Alors là, concrètement, le scénario, c'est qu'on se dit, on a de la marge, comme tu le dis, Steve. Il y a un match qui va se jouer à Golden State, c'est celui qu'on peut laisser passer, mais on s'attend à ce qu'OKC fasse le boulot à la maison le 28 mai 2016. Et là, c'est tout simplement incroyable ce qui se passe. Concrètement, OKC a le match en main. Moi, je trouve, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. OKC a clairement le match en main, sauf qu'il y a un mec qui a décidé de prendre feu une bonne fois pour toutes et de montrer que Golden State était là pour quelque chose. C'est Klay Thompson qui va battre le record de nombre de 3 points en play-off sur un match avec 11, effectivement, et surtout une facilité déconcertante. En fait, Klay Thompson, il prend les catch and shoot du milieu de terrain, il les envoie, oui. Ça rentre. Et finalement, c'est scénario classique des Warriors qui sont menés tout le long, mais qui dans les 5 dernières minutes vont être ultra réalistes et ultra en adresse. C'est ce qui va faire douter Oklahoma City. Kevin Durant qui fuit ses responsabilités en fin de match. Derrière, Kevin Durant qui redisparaît pour le Game 7 et qui va rejoindre les Warriors parce que c'est quand même beaucoup plus facile de gagner avec lui.
Oh, l'autre, il se permet de massacrer Kevin Durant là. Oh.
C'est le move le plus weak de l'histoire de la NBA. Weak pour dire.
Le mec, il était à un match de finale NBA et il se barre chez l'ennemi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il va pas au bout du process. C'est comme si Mbappé est en finale de Ligue des Champions avec le PSG et
il signe au Bayern.
Et voilà, il signe au Bayern.
Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Très bien. Sur ce que dit Sacha, vous êtes d'accord, les Thunder avaient le match en main?
Oui. Clairement, le problème, c'est que les Thompson.
C'est ce qui fait de cette équipe des Warriors comme une équipe légendaire.
C'est une équipe atypique.
Ils l'ont fait plusieurs fois.
Tu peux les dominer sur une rencontre, mais tu sais qu'en 2 minutes 30, ils sont capables de tout renverser. Est-ce que ça va peut-être être encore le cas cette saison?
On peut battre une fois les Warriors.
Mais pas.
Pas cette fois. 4 fois sur une série de 7. Le quiz pour finir. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Il se prend pour Julien Lepers.
Ma main, Kyle Quinn.
On se contente de Rocky à Rocky 5.
Et plus rock, c'est Rocky.
Pourtant, c'était The Chairman of the Board. Hein?
Asshole, motherfucker, son of a bitch.
I lock that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde. C'est très serré, c'est passionnant. Voilà. Quel quiz, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, le quiz.
S'autocongratule, moi. C'est quel quiz incroyable.
Va faire la part belle aux grands joueurs de la NBA, aux grandes légendes de la NBA. Alors, une petite subtilité, on va parler des mégastars, mais qui ont joué dans les deux conférences, Ouest et Est. Et alors évidemment, les indices porteront surtout sur les franchises qui n'ont pas marqué leur parcours, sinon c'est trop facile.
Bien sûr, Pierre.
Évidemment. Si je vous parle de LeBron James, on ne va pas parler de LeBron James aux Cavs. Voilà. Vous avez compris le principe ?
Oui, Pierre.
Alors, on démarre avec une petite interview. Vous allez écouter attentivement les propos de cette méga star et deviner son identité.
After that, 98-99 was one of the best years. 99-2000 was one of the best years for me.
Kobe.
Just coming out of all the Steph shit. And Steph. I kind of found my love for basketball or the love for the league
Stephen
again
Jackson?
After that. Because no. I thought Steph and I was going to be forever. And I thought out of that, we was going to probably get
Steph,
a couple.
Moi,
right. Even with the Shaq and Kobe shit. You know what I'm saying? But yeah, at that time, man.
Kevin Garnett qui parle de Stephen Marbury. Bravo, Steve. C'est Kevin Garnett qui parle de Stephen Marbury. Raconte-nous ça, Steve.
Minnesota Timberwolves.
Minnesota Timberwolves. Et Garnett dit, j'étais persuadé qu'on pouvait être champion.
Avec Marbury.
Et je n'ai pas compris pourquoi Stephen Marbury est parti. Moi, alors, je vais vous dire, j'avais complètement oublié que Stephen Marbury avait démarré à Minnesota.
Il démarre à Minnesota, meneur de jeu ultra spectaculaire, score. Et la doublette Marbury-Garnett, elle a fait fantasmer toute la NBA. Après Marbury est parti au Knicks.
Et après il est parti au
Knicks. Est-ce que vous pensez comme Garnett qu'avec Marbury et Marbury ils auraient pu être champions? Lui c'est ce qu'il dit malgré Kobe, malgré le Shaq.
C'est difficile de réécrire le ce qui s'est passé quand même.
Non, mais il pouvait y croire.
Il pouvait y croire.
Oui. Le premier point pour Stephen, on va deviner un joueur qui a commencé par jouer au cricket et au football avant de découvrir le basket.
C'est pas un Indien,
c'est un Jamaïcain. Il a commencé le cricket et le foot en Jamaïque, où il est né en 1962. Samuel D'Alembert, tu m'as sorti.
Ouais.
J'ai dit des grands joueurs, Steve, t'abuses.
Il est haïtien.
En plus, il est haïtien et je vous parle de légende, là, d'une vraie légende de la NBA.
La fourme D'Alembert.
Ewing.
Pat Ewing,
oui.
Exceptionnel, bravo.
Patoche avec ses narines.
Qui a déménagé de Jamaïque à Boston et malgré le décalage de température, il s'est imposé en basket. Il avait joué au Seattle Supersonics et à Orlando, au Magic d'Orlando.
Enfin, carrière,
vous en souvenez,
net,
vous en souvenez?
On n'a pas envie de s'en souvenir d'ailleurs. On a envie de garder le maillot des Knicks.
Si Sacha n'avait pas réagi, est-ce que
bizarre.
Orlando et Seattle, ça vous aurait peut-être trouvé?
Tout à fait, Pierre.
Eh bien, bravo. Bravo à vous. Il avait été champion olympique en 84 avant même d'être drafté en NBA.
Oui.
Pat Ewing. Bravo à Sacha, ça fait un point chacun sauf pour Fred. Alors maintenant, je vais vous donner les partenaires, les principaux partenaires d'un joueur.
Coéquipier.
Ouais, les principaux coéquipiers, les joueurs majeurs.
Ça peut être
particulier.
Ça peut être
quoi.
Bon, ça, c'est parce que t'as l'esprit mal tourné, Steve.
C'est le Williams, c'est compliqué.
Et vous allez deviner le joueur, ça va aller vite. Mais on va démarrer par les franchises où il a moins marqué quand même l'histoire de la NBA. À Milwaukee, il a formé un Big Three avec Glenn Robinson et Sam Cassell. Bah, c'est Ray Allen. bravo, Steve.
Bravo.
Bravo, Steve. C'était pas,
Ray Allen.
C'était pas si évident que ça, Fred.
Si, c'est
bah, alors, pourquoi tu as pas dit?
Mais parce qu'il est plus rapide, juste.
Tu l'as pas dit.
C'est juste la question de vitesse.
C'est Ray Allen. Donc,
tu sais que Ray Allen est un joueur qui a su se reconvertir à l'époque de Milwaukee. Très athlétique.
Ouais.
Il met des énormes dunks, il posterise tout le monde. Et après, au fur et à mesure, c'est devenu un des plus grands shooters de l'histoire.
Et donc, il a quand même marqué l'histoire de la franchise des Bucks, de Seattle, de Boston et de Miami. C'est fort quand même. Hein.
Oui, Ray fantastique Allen. Joueur. Et super humainement au top aussi.
Alors, ça fait 2 points pour Stephen, pour Sacha, 0 pour Fred. Je vous donne des stats et vous trouvez le joueur.
Oula.
5 fois meilleur passeur de la saison. Meilleur passeur de la saison. Hein.
Ouais.
5e meilleur scoreur dans l'histoire des Nets. Meilleur passeur des Mavs en moyenne. C'est Jason Kidd,
oui.
Absolument. 2e meilleur intercepteur de l'histoire de la NBA et 2e meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Très solide en stats.
Et coach des Mavs aujourd'hui.
Et coach des Mavs. Ça fait 3 points. Qui parle?
We didn't go to different teams. We played in one organization, you know, most of our career. And I got to say, I was proud to play in Atlanta for most of my career.
Dominique Wilkins?
Dominique Wilkins!
C'est quand j'ai entendu Atlanta.
Évidemment, 12 saisons à Atlanta, mais pas de titre de champion. Aucun regret pour Dominique Wilkins, c'est ce qu'il raconte dans cette interview.
Champion de l'Euroleague aussi.
Champion d'Europe avec le Pana.
Ouais.
Bravo.
Bravo, Steve, c'est
ouais,
nul.
Ça, on s'en fout, c'est pas intéressant.
C'est exceptionnel.
À Paris, à Bercy, avec le Panathinaikos Athènes.
Avec qui comme coach?
Zeljko Obradović.
Non, Bojan Malkovic.
Qui a déclaré.
Oh, j'ai rien à
On lui dit des trucs, il s'en fout.
J'ai la pression pour, pour mettre fin à ce podcast parce que c'est tellement passionnant qu'on continue. Évidemment, mais on a des directives. Alors, qui a déclaré? Je suis allé parler à David Stern en lui demandant pourquoi il avait été aussi sévère.
Alan Iverson.
Ni l'un ni l'autre. Il m'a dit à cause
de
ton casier judiciaire. Non, mais
Arenas. On
se rapproche un peu. Non plus. Tu veux être dans la rue ou tu veux être en NBA?
Ja Morant.
T'es en train de faire le con avec la corporation. Il y a un rapport avec Ja Morant. Un rapport très indirect avec Ja Morant. Je sais avec qui tu traînes. Je sais où tu vis et où ils vivent. Je sais quand tu fermes les yeux et je sais quand tu te réveilles. Je sais ce que font tes amis et qui fait quoi. Soit ils arrêtent, soit tu te sépares d'eux. C'est un rapport avec Ja Morant parce que c'est une vieille histoire, mais que ce joueur a raconté à l'occasion des déboires de Ja Morant, donc très récemment. Là, c'est une
Stephen Jackson.
C'est pas Stephen Jackson. Quelqu'un qui a eu.
C'est quelqu'un qui est turbulent.
Qui a été suspendu. Peu,
ouais. Sprewell.
Donc par
Ron Artest. Ron Artest.
Non. Alors,
Jermaine O'Neal.
Je peux vous lire la
Jermaine
suite. Je sais pas si ça vous
aide. Rachid Wallace.
Non, vous allez, finir par le trouver. C'est là que j'ai compris que la NBA faisait partie du FBI. Il m'a dit qu'il devait faire un exemple avec moi. J'ai compris ça. Si je te donne 100 millions, je dois être au courant de tout. Il a fallu que je vieillisse et devienne plus sage pour comprendre que cet enfoiré avait raison.
C'est un mec qui travaille à la télé maintenant.
Non, c'est un mec qui vient de participer à un podcast et qui l'a raconté. C'est une méga légende de la NBA qui a marqué l'histoire de l'Est et de l'Ouest et qui avait été suspendu 15 matchs.
Pourquoi ?
Pour un coup de poing. Sur Mardi Collins.
Mardi Collins, c'est un joueur de Strasbourg.
Lors d'un Denver, New York.
Oh, j'ai dit Rose, mais il m'a dit non.
À Houston.
Denver, New York.
Marcus Camby.
Et non. Mais encore plus grand joueur que Marcus Camby.
Charles Oakley.
On est sur des légendes de la NBA, là.
Denver, New York, il jouait où? À New York?
Non, à Denver.
Carmelo Anthony.
Exceptionnel, Stephen.
Ah
voilà,
oui.
La déduction, quand on ne sait pas, on réfléchit. Exceptionnel, Stephen. Et enfin, si vous voulez, mais on n'est pas obligé de le faire. Parce que c'est très dur. Il y a une question multipoint. Vous savez que Scottie Pippen a joué 4 saisons à Portland.
Oui.
Après, évidemment, une grande carrière au Bulls. Oui. Fred est en train de plonger sous la table de désespoir. Oui. Je vous demandais tous ses coéquipiers lors de la saison 99-2000. Alors, c'est très dur, mais il y a beaucoup de grands joueurs qui se sont retrouvés là. Je ne sais pas comment, mais il y a pas mal de joueurs connus quand même.
Okay. C'est un tour de table ?
C'est un tour de table. Est-ce que tu veux participer, Fred ?
Non, merci. C'est
bon. Oh, si.
Non, je vois pas. Là, comme ça, je vois pas.
Ah, conneries. C'est les Jay Blazers.
99-2000. Alors, est-ce que tu veux ou pas donner un nom, Fred ? C'est toi qui démarre.
Jermaine O'Neal.
C'est bon, Jermaine O'Neal. Ça te fait un point, Sacha.
Oui, bah, c'était à peu près le seul que
t'en as un autre à trouver. Hein.
C'était celui que j'avais, je suis dégoûté. Mais
t'en as un autre à trouver qui est spécial pour toi, Fred. Hein. Je t'en dis pas plus.
Je vais.
Sacha.
Ouais, mais je vais lui prendre.
Je pense que je vais regretter. Je vais dire Zach Randolph.
Non. Zach Randolph, non, il n'en fait pas partie. Steve.
Arvydas Sabonis.
Arvydas Sabonis, c'est bon.
Aussi, tu vois.
Alors.
Wallace. Rachid.
Rachid Wallace, bravo. Tu vois, Fred, aie confiance en toi. Tu peux gagner le quiz parce que c'est dur.
Je vais tenter un meneur de jeu gaucher, Damon Stoudemire.
C'est exceptionnel, bravo Stephen. Ah, franchement, c'est exceptionnel.
Mighty Mouse.
C'est difficile. Hein. Fred, tu peux encore trouver. Il y a encore un Européen à trouver.
Un Européen.
Ouais, un Européen d'une nation qui n'a pas envoyé beaucoup de joueurs en NBA, mais une légende de la NBA de cette nationalité-là. Une légende qui plaît à Steve.
Turkoglu ?
Non, il n'y avait pas Turkoglu.
Bonzi Wells ?
Il y avait Bonzi Wells, absolument. Il y avait Detlef Schrempf. Et après.
Greg Anthony.
Comment tu dis ?
Greg Anthony,
bravo. Alors là, il y a des noms, je vous avoue, je n'ai jamais entendu parler. Stacey Ogmon.
Oui, Stacey Ogmon. Oui.
Brian Grant.
Brian Grant.
Oui. Gary Grant. Antonio Harvey, Joe Klein.
C'est un acteur de Gary Grant.
Et Steve Smith. Bravo, Steve Smith.
Steve Smith, Atlanta.
Bravo,
joueur.
Stephen, tu remportes.
Tu sais qu'après un move de Jordan, à la fin de baseline, il repart, tac, dunk.
Tu remportes une nouvelle fois ce quiz de Basket Time.
Happy birthday.
RMC Basket Time.